Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, plus de 46 000 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées lors des dernières 24 heures, selon l'université Johns Hopkins hier. On déplore maintenant dans le pays 4,7 millions de cas et plus de 155 000 morts, dont 532 nouveaux décès. Le président Donald Trump a lui déclaré hier que le virus reculait dans certains foyers du sud et de l'ouest du pays, disant voir des signes très encourageants. La veille, sa conseillère, le docteur Deborah Burke, avait pourtant estimé que le pays était entré dans une nouvelle phase de l'épidémie, désormais très largement répandue sur le territoire américain, y compris dans les zones plus rurales. Plus de 18 millions de personnes dans le monde ont été contaminées et au moins 689 758 tués par le coronavirus depuis son apparition en Chine en décembre dernier. L'Amérique du Sud et les Caraïbes ont franchi le cap des 5 millions de cas et déplorent plus de 202 000 morts, dont près de 95 000 décès au Brésil, selon l'AFP. L'inquiétude grandit aussi en Océanie, où de multiples restrictions ont été remises en place en Australie face à la progression de la maladie. Au Sénégal, 10 386 cas, dont 211 décès, le siège du quotidien Les Échos a été vandalisé hier par des partisans de Serigne Moustapha Sy, qui reprochaient à sa rédaction d'avoir affirmé que ce chef musulman et dirigeant de parti politique avait été testé positif au coronavirus, selon l'AFP. Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse au Sénégal a condamné dans un communiqué une agression ignoble et rappelé à l'État son devoir de protéger les journalistes et les maisons de presse. Des personnes contaminées ont dénoncé publiquement la stigmatisation dont elles ont été victimes lorsque leur maladie a été connue. En Algérie, près de 32 000 cas, dont plus de 1 200 décès, les autorités ont décidé la réouverture progressive des mosquées, des plages et des parcs fermés depuis près de 5 mois à cause du coronavirus. Selon un communiqué de la présidence hier soir, cette réouverture sera limitée dans une première phase aux seules grandes mosquées d'au moins 1000 places et en mesure de permettre la distanciation physique nécessaire, avec comme impératif le port du masque par tous. L'Algérie a observé ces dernières semaines une nette recrudescence des contaminations, même si les cas enregistrés quotidiennement ont tendance à baisser depuis quelques jours. Toujours en Algérie, le parquet a réclamé 4 ans de prison ferme contre le journaliste indépendant Khaled Drareni et ses deux co-accusés dont le procès s'est ouvert hier à Alger. Protestation de Reporters sans frontières dont Drareni est un correspondant. Ce symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie est accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité du territoire national, après avoir couvert le 7 mars à Alger une manifestation du Hirak, le soulèvement populaire, suspendu il y a quelques mois en raison de l'épidémie de COVID-19. Le débit des internautes à tchadiens a été réduit pour éviter la propagation de messages haineux sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a affirmé hier à l'AFP le ministre de la Communication Mohamed Zine Cherif, assurant que cette mesure temporaire prise le 22 juillet sera levée d'un moment à l'autre. Mais des responsables des télécoms tchadiens affirme sous couvert d'anonymat que cette décision est liée à la diffusion d'une vidéo où un officier tchadien, lors d'une altercation avec des mécaniciens le 14 juillet, a tiré à bout portant sur deux d'entre eux avant d'être lui-même attaqué à l'arme blanche. Le Monde, aujourd'hui VOA Afrique. La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, un homme a été tué et des édifices publics saccagés hier dans le sud-est du pays lors d'une manifestation de partisans du président Félix Tshisekedi qui protestait contre la criminalité. Eddie Isango.
Les membres de l'UDPS, le parti présidentiel, ont manifesté à Kasumbalesa pour protester contre la mort d'un des leurs, tué dans la nuit des dimanches à lundi par des inconnus. Un passant a été atteint d'une balle et par la suite a succombé à ses blessures à l'hôpital, selon André Kapamba Kamwanya, maire de cette ville frontalière avec la Zambie. Selon lui, les manifestants ont saccagé deux commissariats de police, un tribunal ainsi que des biens des particuliers. La manif a commencé le matin après la découverte du corps sans vie d'un membre du parti tué par des inconnus. La victime dirigeait la structure informelle de l'UDPS appelée le Parlement Debout. Le président de l'UDPS à Kasumbalesa, Bruno Tshibangu, explique que ses partisans protestaient contre la recrudescence de l'insécurité dans la province. Il rappelle que 7 partisans de l'UDPS ont été tués le 9 juillet après une manifestation de leur parti.
Retour à la table de négociation sur la construction d'un méga barrage éthiopien sur le Nil. Le Caire a annoncé pour jeudi la reprise des discussions après une réunion avec Addis Abeba et Khartoum sous l'égide de l'Union africaine. Abdourahmane Dia.
Les ministres ont convenu de la tenue les 4 et 5 août des comités techniques et juridiques afin d'aborder les points controversés et la présentation des conclusions lors d'une réunion ministérielle le 6 août, a indiqué le ministère égyptien de l'irrigation dans un communiqué. La réunion d'hier lundi s'est déroulée par visioconférence avec des observateurs américains et de l'Union européenne. Le grand barrage de la Renaissance, construit par l'Éthiopie sur le Nil Bleu, est source de fortes tensions entre les trois pays depuis près d'une décennie. Le Soudan considère que les propositions avancées lundi peuvent servir de base à un accord, a fait savoir dans un communiqué le ministre soudanais de l'Irrigation et de l'Eau, Yasser Abbas, sans donner de précisions sur les dites propositions. Craignant pour leur approvisionnement en eau, l'Égypte et le Soudan veulent un accord global sur le barrage, notamment sur la manière dont il est géré, mais l'Éthiopie y est réticente et estime que cet ouvrage est essentiel à son développement. La principale pierre d'achoppement entre les trois pays concerne le remplissage du réservoir du barrage, alors que l'Éthiopie a annoncé le 21 juillet dernier avoir atteint son objectif de remplissage pour la première année.
Le président américain Donald Trump a déclaré hier que le très populaire réseau social TikTok, propriété du chinois ByteDance, devrait être vendu avant la mi-septembre pour pouvoir continuer à opérer aux États-Unis. Le point avec Michel Joseph.
J'ai fixé une date autour du 15 septembre à compter de laquelle ils ne vont plus opérer aux États-Unis, a déclaré à la presse le président américain. Il fermera le 15 septembre à moins que Microsoft ou une autre entreprise soit en mesure de l'acheter et de trouver un accord, a-t-il ajouté. Washington accuse l'interface d'être utilisée par Pékin à des fins de surveillance. TikTok a toujours nié avec véhémence tout partage de données avec les autorités chinoises. Dimanche, M. Trump s'est entretenu avec Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui négocie racheter la branche américaine de TikTok à sa maison mère. Il a confirmé les négociations en vue d'un accord d'ici le 15 septembre au plus tard. TikTok est très utilisé par les jeunes de 15 à 25 ans et compte environ 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Il permet de créer, partager et visionner des clips généralement musicaux, décalés ou humoristiques.
La Minute Echo, John Linden.
Les actions de Shoprite Holdings en Afrique du Sud ont bondi de plus de 11% lundi après avoir annoncé une augmentation des ventes totales et déclaré envisager la vente de la totalité ou d'une participation majoritaire dans sa filiale nigériane. La société, qui possède plus de 2800 points de vente à travers l'Afrique, a revu ses options à long terme. Les dévaluations de la monnaie, les problèmes d'approvisionnement et les faibles dépenses de consommation en Angola, au Nigeria et en Zambie ont pesé sur ses bénéfices. Le gouvernement zimbabwéen a accepté de verser 3,5 milliards de dollars d'indemnisation aux agriculteurs blancs dont les terres ont été expropriées sous le régime de Robert Mugabe. Le montant majoré des intérêts a été négocié à partir d'une évaluation de 1,2 milliard de dollars au lieu des 5,4 milliards de dollars fixés par les fermiers blancs. Pour réaliser cette levée des fonds, le Zimbabwe émettra un instrument de dette à long terme sur les marchés financiers internationaux qui arrivera à échéance dans 30 ans. Le Mali projette une production de céréales de 11 millions de tonnes en 2020 et 1 million de tonnes de coton d'ici 2021. D'après le site Bamako.com, le directeur national de l'agriculture, Oumar Tamboura, estime que l'état végétatif des champs est bon, les semis ont commencé en juin et l'hivernage s'est installé. La Banque mondiale estime que le PIB du Mali devrait baisser à 4,9% cette année contre 5,1% en 2019.
L'espoir à présent, Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, revirement à la CAF. Alors que la Ligue des Champions devait s'achever par un Final Four, les demi-finales se joueront finalement au traditionnel format aller-retour. La première demi-finale aller opposera les Égyptiens d'Al Ahly aux Marocains du Wydad Casablanca au Caire le 25 septembre. La seconde mettra aux prises, toujours en Égypte, le Zamalek et le Raja Casablanca le 26 septembre. Les matchs retour se joueront au Maroc les 2 et 3 octobre, selon le communiqué de la CAF. La finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d'opposition entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine, ajoute la CAF. Si elle oppose deux clubs d'un même pays, en revanche, elle se jouera le 15 ou le 16 octobre, soit au Maroc, soit en Égypte. La CAF a par contre confirmé l'organisation d'un Final Four pour la Coupe de la Confédération au Maroc fin septembre à huis clos cette fois-ci. En Égypte, la FIFA a prolongé de 4 mois supplémentaires le mandat du comité de normalisation de la Fédération de football. Ce mandat devait initialement prendre fin le 30 août prochain, dirigé par Amr El Ghanaini. La normalisation est en place depuis août 2019, après la démission du président Hani Abou Rida, parti au lendemain de l'élimination des Pharaons de la CAN 2019. En basketball, Mike Budenholzer, qui dirige Milwaukee, la meilleure équipe de la saison régulière, et Billy Donovan à la tête d'Oklahoma City, outsider inattendu durant cet exercice 2019-2020, ont été nommés entraîneurs de la saison. Budenholzer, qui avait remporté seul le prix Michael Goldberg l'an passé, entre dans le club très fermé des triples lauréats puisqu'il avait une première fois été honoré en 2015 lorsqu'il entraînait Atlanta. Il rejoint Greg Popovich, Pat Riley et Don Nelson. Cette distinction annuelle récompense le dévouement, l'engagement et le travail acharné des entraîneurs de la NBA et est présenté chaque année à un coach qui aide à guider ses joueurs vers un niveau de performance plus élevé sur le terrain. Le vote de cette année s'est basé sur les matchs joués depuis le début de la saison régulière 2019-2020 jusqu'au match disputé le 11 mars, date à laquelle le coronavirus a interrompu le jeu. Athlétisme, le meeting de Doha au Qatar, donc, comptant pour la Ligue de Diamants et qui avait été décalé au 9 octobre, se déroulera finalement le 25 septembre. Il s'agira du 5e des 6 rendez-vous de la série reine de l'athlétisme mondial. Après Monaco, Stockholm, Bruxelles et Rome et Naples, la Ligue de Diamants se terminera en Chine le 17 octobre, dans une ville qui reste à déterminer. 6 étapes ont été annulées jusqu'à présent en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Et Guinée, ici aux États-Unis, Londres, Paris, Rabat, Gateshead en Grande-Bretagne et Shanghai en Chine.
Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05, temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. De plus en plus de Camerounais s'interrogent et même critiquent le gouvernement et l'armée sur la gestion de la guerre contre Boko Haram dans le nord du Cameroun. Dimanche, 19 personnes ont été tuées et 16 autres blessées lors d'une attaque dans un camp de personnes déplacées. L'armée rejette ces critiques que le groupe djihadiste a augmenté ses attaques. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par Lionel Gahima.
Ousmane Sani, chef du village de Ngechewe, près de la ville de Mozogo, dans l'extrême nord du Cameroun, compte sur les milices d'autodéfense pour protéger ses administrés de Boko Haram. Selon lui, la présence militaire a été considérablement réduite, si bien que la frontière poreuse avec le Nigeria n'est plus contrôlée.
Je salue le déploiement de ces soldats de notre genre. Ils font un travail remarquable au quotidien. Je crois qu'ils peuvent faire mieux s'ils étaient aussi équipés comme il le faut. Il faut que le gouvernement équipe ses membres du comité de vigilance pour éradiquer donc le Boko Haram dans la région de l'extrême nord.
Selon lui, l'armée est absente de la majorité des 6 postes de contrôle, ce qui pourrait avoir encouragé les incursions de Boko Haram. L'armée a reconnu que plusieurs combattants de Boko Haram, dont des femmes, sont partis du Nigeria pour attaquer un camp de déplacés internes de Gichewe. Cette nouvelle attaque a eu lieu moins d'un mois après la visite du général René-Claude Meka, chef d'état-major de l'armée, pour galvaniser les troupes. Il rejette les allégations selon lesquelles l'armée s'est retirée de nombre de positions à la frontière avec le Nigeria.
Il travaille bien, avec efficacité et professionnalisme. Il n'y a pas de développement particulier sur le terrain. On a beaucoup échangé et il faut recaler les hommes dans la manière de conduire les opérations. S'il y a des problèmes particuliers qui se posent, il faut réorienter s'il le faut.
Jean-Vincent Touda-Ebodé de l'université de Yaoundé 1 estime que l'armée ne devrait pas penser qu'elle a vaincu Boko Haram, ajoutant que le groupe terroriste est certes affaibli, mais toujours très présent dans le nord du Cameroun, au Nigeria et au Tchad.
Pour endiguer ce terrorisme, il faut tenir compte de ce qui pourrait être instrumentalisé par le terroriste pour poser ses actes. Maintenant, la sécurisation de l'ensemble de la population, des infrastructures qui peuvent être les cibles, les terroristes demandent des mesures appropriées de sécurité, de sûreté, aussi de défense.
Depuis janvier, le Cameroun a enregistré 87 attaques à sa frontière nord avec le Nigeria, dont 22 dans le district de Mozogo. Les Nations Unies rapportent que la violence de Boko Haram a fait au moins 30 000 morts et environ 2 millions de déplacés.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
En Centrafrique, la société civile réclame la démission du Premier ministre Firmin Rebada et appelle à une journée ville morte ce mercredi à Bangui. Elle entend ainsi protester contre la rencontre entre le gouvernement et le chef de l'UPC, Ali Darassa, la semaine dernière. Au cours de cette rencontre, le gouvernement a accepté de réinstaller Ali Darassa à Bambari, chef-lieu de la préfecture de la Waka. Frima Sipila a joint Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile.
Au cours de cette rencontre tenue en toute discrétion le 25 juillet à Bangui, le gouvernement et Ali Darassa se sont mis d'accord sur un certain nombre de points. Selon le communiqué final, le chef de guerre nigérien, aujourd'hui à la tête de l'UPC, un groupe armé qui contrôle une partie du centre et de l'est de la République centrafricaine, accepte de faciliter le déroulement du processus électoral, de travailler pour le désarmement de ses hommes et de ne plus poser des actes qui relèvent de la compétence régalienne de l'État. En contrepartie, le gouvernement accepte de réinstaller Ali Darassa à Bombari, ville qu'il a quittée sous pression de la MINUSCA en 2018. Cet accord passe mal aux yeux de la société civile qui exige la démission du Premier ministre et le départ de certains garants de l'accord de paix du 6 février 2019 entre le gouvernement et les groupes armés. Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile GTSC.
Le Premier ministre est en train de poser un acte de haute trahison et les garants de ce soi-disant accord de Khartoum sont en train de se moquer du peuple centrafricain. Le mercredi 5 août, nous invitons tous les centrafricains à rester chez eux à la maison. Pas de travail ce jour-là. C'est une journée ville morte. Et qu'est-ce que nous revendiquons? Nous revendiquons la démission sans condition du Premier ministre.
Cet appel du GTSC suscite de nombreuses réactions dans le pays. Le mouvement Centrafrique Debout, une organisation de la société civile proche du pouvoir, monte au créneau et contredit le mot d'ordre du GTSC. Abakar Pico, un des leaders.
Dans le processus de l'accord de Khartoum, il est institué un cadre de concertation permanent entre le gouvernement et les signataires. C'est dans ce contexte que Ali Darassa a été reçu par le gouvernement. Et ce n'est que chose normale. Le Premier ministre Gebada n'a commis aucune erreur. C'est pour ça que nous disons au peuple centrafricain de ne pas respecter cette prétendue grève.
Sébastien Wenezui, coordonnateur du parti politique Cohésion Centrafricaine pour la Reconstruction et conseiller spécial du chef de l'État, dénonce lui aussi un appel infondé.
Leur déclaration est très précoce pour une simple raison, parce qu'elle ne sait pas exactement les faits réels qui se sont déroulés par rapport à la venue de Ali Darassa à Bangui. La réalité est qu'elle devait se rapprocher de la primature pour savoir ce qui s'est passé au lieu de se contenter d'aller vouloir faire venir les enfants des autres dans la rue ou bien de projeter ce qu'on appelle une ville morte.
Même si des voix proches du pouvoir s'élèvent pour rejeter les revendications du GTSC, la classe politique centrafricaine est aussi partagée sur le sujet. Pour l'ancien Premier ministre Martin Zigele, président du mouvement de libération du peuple centrafricain, Ali Darassa est un criminel qu'il faut traiter comme tel.
Pour le mouvement de libération du peuple centrafricain, la résolution de la crise centrafricaine passe nécessairement et obligatoirement par l'arrestation sans condition et sans délai de Ali Darassa.
Alors que la polémique enfle autour de cette rencontre entre le gouvernement et Ali Darassa, le chef de l'UPC dénonce dans un communiqué de son mouvement les compromis présentés par Bangui. Il affirme avoir été obligé par le Premier ministre Firmin Gebada de signer le communiqué final de la rencontre. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Burkina Faso, après avoir contribué à faire chasser du pouvoir Blaise Compaoré en 2014, à travers le Ballet Citoyen, un mouvement de la société civile dont il était le porte-parole, Maître Guy Hervé lance un nouveau mouvement politique, Le Sens, qui veut dire « servir et non se servir ». Maître Guy Hervé Cam veut faire de la politique autrement en s'appuyant sur les idéaux de l'insurrection de 2014. Pourquoi ce nouveau mouvement? Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Maître Guy Hervé Cam.
Nous avons décidé de lancer ce mouvement parce que nous avons estimé qu'il fallait aller plus loin dans l'engagement pour pouvoir impacter l'espace de décision. Comme le disait le président Sankara, le problème est politique. La solution ne peut être que politique. Or, nous avons constaté qu'une grande partie de la population ne se retrouvait pas dans les partis politiques, ne se retrouvait même pas du tout dans la politique, parce qu'elle estimait que la politique est sale et salissante. Et nous nous sommes dit que tant que ce sera comme ça, les dégoûtés resteront toujours de côté et ce sont les dégoûtants qui gouverneront. C'est pourquoi que nous avons décidé de lancer ce mouvement pour essayer de toucher toutes ces personnes-là qui avaient pris leur distance avec la politique, or qui sont des personnes socialement intégrées, qui sont des personnes qui ont une certaine légitimité, pour leur dire de mettre au service du peuple, de prendre un engagement dans le cadre de ce regroupement d'indépendants-là.
Le ballet citoyen que vous avez dirigé a été vu comme un mouvement qui a réussi dans sa mission. On a l'impression que vous n'êtes pas satisfait de cette insurrection-là.
Non, nous sommes satisfaits de l'insurrection, mais nous ne sommes pas satisfaits de l'après-insurrection. Comme nous le disons, l'insurrection a donné un message fort aux politiciens et à ceux qui dirigent le Burkina. C'est plus rien ne sera comme avant. Mais malheureusement, nous avons constaté que les politiciens de tous bords n'ont pas compris ce message. Et les mêmes mots qui étaient reprochés aux politiciens continuent à exister toujours. Et pour redonner un sens à cette lettre de mission des insurgés, nous avons donc décidé de faire quelque chose. Oui, nous sommes totalement insatisfaits de l'esprit, du traitement de l'esprit de l'insurrection. Parce que l'insurrection n'avait pas seulement pour but de faire partie de l'escompaoré. L'insurrection avait pour but d'apporter un changement concret dans la gestion de la chose publique au Burkina.
On est dans une année électorale. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Ben, ça veut dire que c'est une occasion donnée au peuple burkinabé de choisir des dirigeants qui pourront effectivement parler à leur nom. Concrètement, nous allons présenter des candidats, principalement aux élections législatives de 2020.
Et vous ne serez pas candidat à la présidentielle?
Pour l'instant, ce n'est pas dans notre projet parce que nous avons envie de faire une construction à la base et de monter les échelles, de ne pas nous précipiter parce qu'il ne s'agit pas pour nous de prendre le pouvoir pour jouir du pouvoir. Il s'agit pour nous de prendre le pouvoir pour changer le pays et pour cela, il faut aller étape par étape.
Maître Guy Hervé Kam, coordonnateur national du SENS, joint à Ouagadougou par Bagassikoura.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Gabon, le gouvernement a lancé le programme Gabon Famille Verte, qui promeut le retour à la terre à partir de petites expériences de potager à domicile. Le ministère de l'Agriculture et son partenaire technique, la FAO, ont inauguré les premières récoltes de ce programme agricole. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Devant sa maison, Diara Zengui a relevé en 6 mois le défi de planter choux, carottes, persils et tomates sur 7 mètres carrés d'espace. Il fait partie des 5000 premiers bénéficiaires des lots de semences offerts par le gouvernement aux personnes désireuses de cultiver la terre à domicile.
Je n'ai même pas un espace de terre arable, alors je le fais sur pot. Avec le matériel que j'utilise, c'est quoi? C'est le copeau, avec un peu de copeau, la fiente, pour bien amender ce copeau-là, et puis c'est tout, et de l'eau.
À l'heure des premières récoltes du concept Gabon Famille Verte, nous assistons à une dégustation improvisée des produits de potager visités par les équipes du bureau de la FAO à Libreville et une délégation du ministère gabonais de l'Agriculture.
C'est la première fois que je vais déguster des produits de Gabon Famille Verte. Jusqu'à présent, ils mangeaient seuls. Aujourd'hui, ils vont manger avec nous.
Pour le représentant régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ce programme mérite d'être partagé en Afrique comme modèle de renforcement du système alimentaire sur le continent. LDR Moutéa, coordonnateur FAO au Gabon.
L'idée, c'est que dans le contexte du Covid, on puisse chercher des solutions qui sont durables, notamment dans la production et de la consommation des aliments. Les producteurs qu'on a visités aujourd'hui, ils sont 3, ils sont appropriés de la vision. Je pense qu'on va, dans la même plateforme, créer des conditions pour partager cette bonne expérience et qu'on puisse vraiment faire du Gabon Famille Verte, initiative non seulement du Gabon, mais aussi de l'Afrique.
Cette campagne de promotion pour le retour à la terre a déjà enregistré 1000 familles inscrites en ligne. On écoute le ministre gabonais de l'Agriculture, Biendi Manganga Moussa.
Et on s'inscrit sur la plateforme Gabon Famille Verte, il y a un lien, on s'inscrit, on peut recevoir des semences pour planter à domicile.
Le programme Gabon Famille Verte ambitionne de rendre l'agriculture accessible à tous en milieu urbain, de même qu'à promouvoir l'autonomisation des familles. Libreville, Ismaël Obionzé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebuga et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.